Chapitre 17. Une affaire de contrôle.
Tu devrais être plus prudente,
dit sa reine dans la salle d'interrogatoire.
Nous avons une grande influence sur la chair de Merlin. Si tu coopérais, on pourrait la convaincre de te punir moins sévèrement.
Assise sur un siège confortable dans le couloir, Katsuane entendit nettement le grognement dédaigneux de ses mirages. La légende contemplait le tapis des plus ordinaires en sirotant une infusion. Elle n'était pas seule, puisque Deigan, Erian et Elsa avaient pour mission de maintenir le bouclier qui neutralisait la rejetée. À part Katsuane elle-même, toutes les Aes Sedai s'y collaient à tour de rôle. Face à un tel danger, il aurait été suicidaire de confier cette tâche uniquement à des sœurs de second rang. Le bouclier devait être puissant. Si ces mirages se libéraient, la lumière seule savait ce qui se passerait. Tout à fait à l'aise, la légende continua à savourer son infusion. En plus des sœurs qu'elle avait sélectionnées, le fichu garçon insistait pour que 16 Aes Sedai puissent interroger ces mirages. Une timide tentative pour asseoir son autorité? La conviction sincère que ces femmes pouvaient réussir là où Katsuane avait échoué, jusque-là en tout cas? La légende n'aurait su le dire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'était sa reine qui menait le jeu. Délicate et très modeste, la Tarabonaise ne semblait pas consciente qu'elle était une des plus jolies femmes à avoir reçu le châle depuis des années. Cette déconnexion d'avec la réalité n'avait rien de surprenant, puisque les sœurs blanches se montraient souvent aussi décalées que les marrons. En outre, sa reine ignorait que Katsuane suivait l'interrogatoire grâce à un tissage d'air et de feu. Un truc assez simple, souvent maîtrisé par des novices. Combiné à la nouvelle découverte, comment inverser ses flux, l'astuce permettait à la légende d'espionner sans que quiconque dans la pièce ait conscience de sa présence. Les sœurs qui maintenaient le bouclier savaient ce qu'elles faisaient, bien entendu. Mais aucune ne se serait permis un commentaire. Même si deux d'entre elles, Elsa et Erian, appartenaient à la bande d'idiotes qui avait juré fidélité au garçon, en présence de Katsuane, elles gardaient profil bas. Sans doute parce qu'elles devinaient comment leurs consœurs les voyaient. Des imbéciles heureuses. Parfois, il semblait que la moitié des alliés de la légende s'évertuaient à lui mettre des bâtons dans les roues. Dans la salle, sa reine continuait la séance. Désormais, presque toutes les sœurs présentes au manoir avaient pu s'y essayer. Qu'elles soient vertes, blanches, jaunes ou marrons, toutes avaient échoué. Katsuane, elle, ne s'y était pas encore collée directement. Les autres sœurs la regardaient quasiment comme un mythe, et elle ne faisait rien pour les décourager. À une époque, elle était restée loin de la tour, pendant assez longtemps pour qu'on la croie morte, puis sa réapparition avait fait du bruit. Parce que c'était nécessaire, et parce que chaque homme capturé faisait un bien fou à sa réputation, elle était partie à la chasse aux faux dragons. Son labeur ne visait qu'un objectif. Les derniers jours. Que la lumière l'aveugle si elle laissait ce maudit garçon saboter tous ses efforts. Pour cacher son air maussade, Katsuane prit une nouvelle gorgée d'infusion. Fil après fil, elle perdait le contrôle de la situation. Naguère, les querelles qui faisaient rage à la Tour Blanche, un véritable drame, auraient retenu toute son attention. Là, elle ne pouvait pas leur accorder une minute. La création elle-même se délitait. Sa seule option pour s'y opposer restait de se concentrer sur Altor. Mais chaque fois qu'elle tentait de l'aider, il se dérobait. Lentement, il devenait un homme dur comme la pierre à l'intérieur, et incapable d'évoluer ou de s'adapter. Une statue dépourvue de sentiments ne pèserait pas lourd face aux ténébreux. Maudit gamin. Et maintenant, c'était au tour de ces mirages de défier la légende. Katsuane brûlait d'envie d'entrer pour affronter la rejetée. Mais Mérise avait posé les questions qu'elle aurait posées, sans le moindre résultat. Si elle se montrait aussi impuissante que les autres, que deviendrait la réputation de Katsuane? Sa reine reprit la parole.
Les Aes Sedai, tu ne devrais pas les traiter comme ça.
Les Aes Sedai?
Répéta ces mirages caustiques.
N'avez-vous pas honte d'utiliser ces deux mots pour vous décrire? Comme un chiot qui se prendrait pour un loup.
Nous ne savons peut-être pas tout, je l'admets, pourtant.
Vous ne savez rien. Des enfants qui s'amusent avec les jouets de leurs parents.
Katsuane tapota sa tasse du bout d'un index. Pas pour la première fois, elle était frappée par d'évidentes ressemblances entre la rejetée et elle. Et comme toujours, cette constatation la troublait. Du coin de l'œil, elle vit dans l'escalier une servante à la taille de guêpe approchée avec une assiette fumante de haricots et de radis. Le déjeuner de la prisonnière. Il était déjà si tard? 3 heures d'interrogatoire et tout ça pour tourner en rond? D'un geste, Katsuane indiqua à la servante qu'elle pouvait entrer. Quelques instants plus tard, un bruit sourd indiqua que le plateau venait de s'écraser sur le sol. Alarmée, Katsuane se leva, s'unit au Saïdar et bondit vers la porte. La voix de ces mirages la dissuada d'entrer.
« Pas question que j'avale ça !»
lâcha la rejetée, toujours très calme.
« J'en ai assez de ta bouillie, infâme !» Débrouille-toi pour m'apporter un repas convenable.
Si nous le faisons,
dit Saren, saisissant l'occasion au vol.
Répondras-tu à nos questions?
Peut-être. On verra de quelle humeur je serai.
Dans le silence qui suivit, Katsuane regarda les autres sœurs présentes dans le couloir. Comme elles, toutes s'étaient levées en entendant le bruit. La légende leur fit signe de se rasseoir.
Va lui chercher autre chose,
dit Saren à la servante.
Et envoie quelqu'un qui nettoiera ce gâchis.
La servante sortit et referma derrière elle.
La question suivante,
reprit Saren,
décidera de ce que tu pourras manger ou non.
Malgré la fermeté de son ton, Katsune ne rata pas une certaine précipitation dans le débit de la sœur. La chute du plateau l'avait déstabilisée. Toutes les sœurs étaient sur les nerfs face à la rejetée. Sans faire montre de révérence, elle la traitait avec ce qui s'apparentait à du respect. Comment aurait-il pu en être autrement? Cette femme aussi était une légende. En présence d'une telle créature, une des plus diaboliques qui eût serpenté le monde, on ne pouvait pas ne pas être en partie subjugué. En partie subjugué.
Voilà notre erreur,
murmura Katsuane. Clignant des yeux, elle ouvrit la porte et entra dans la salle. Ses mirages étaient debout au milieu. Des flux d'air la saucissonnaient, sûrement tissé au moment où elle avait laissé tomber son plateau. À ses pieds, le jus des haricots s'infiltrait entre les planches disjointes du parquet. Simple remise à l'origine, la pièce sans fenêtre avait été reconvertie en cellule pour accueillir et retenir la rejetée. Son beau visage encadré de nattes piquées de perles, sa reine, assise dans un fauteuil face à la captive, sursauta à cause de l'intrusion de Katsuane. Dans un coin, Vitalien, son champion aux épaules carrées, affichait son air maussade habituel. Sa tête n'étant pas immobilisée, Semiraj tourna les yeux vers Katsuane. Une fois entrée, la légende ne pouvait plus se dérober. Qu'elle le veuille ou non, elle allait devoir affronter la rejetée. Par bonheur, ce qu'elle mijotait n'exigeait pas beaucoup de subtilité. En fait, tout se résumait à une seule question. Si elle avait voulu se briser, comment s'y serait-elle prise? Le problème ainsi posé, la solution devenait enfantine.
« Je vois, »
fit Katsuane d'un ton presque nonchalant.
« Cette sale gosse refuse encore de manger. Sa reine dissipe tes tissages. »
Semiraj fronça les sourcils puis ouvrit la bouche pour lâcher un de ses sarcasmes, mais Katsuane la saisit par les cheveux et, d'un croc en jambe, la fit basculer sur le sol. Pour obtenir ce résultat, elle aurait pu utiliser le pouvoir, mais son instinct lui avait soufflé de recourir à une méthode plus directe. Même si elle doutait d'en avoir besoin, elle prépara quelques tissages. Bien que grande, la rejetée était d'une constitution plutôt frêle. Katsuane, elle, avait des muscles. De plus, Semiraj semblait troublé qu'on la traite si cavalièrement. Un genou entre les omoplates de la prisonnière, Katsuane la força à plonger le nez dans la nourriture étalée sur le sol.
« Mange !»
ordonna-t-elle.
« Je déteste qu'on gaspille les bonnes choses, surtout par des temps si difficiles. »
Semiraj éructa quelques phrases. Sans comprendre un traître mot, Katsuane supposa que c'était des injures ou des malédictions trop anciennes pour qu'elle les connaisse. La rejetée ne tarda pas à se taire et à cesser de gigoter. Une attitude que la légende aurait aussi adoptée pour ne pas salir son image. Même en captivité, Semiraj gardait un certain pouvoir parce qu'elle inspirait de la peur et du respect à ses geôlières. En d'autres termes, elle les subjuguait. Eh bien, Katsuane allait changer ça.
« Ton siège, je te prie, »
dit-elle à sa reine. La sœur blanche se leva à l'air, choquée. Dans les limites fixées par Altor, ses collègues et elle avaient recouru à toutes les mesures coercitives possibles, mais sans jamais mépriser la prisonnière. Car enfin, c'était une femme avec qui il fallait compter, et une ennemie redoutable. Une façon de faire qui flattait l'ego de la rejetée.
« Alors, tu bouffes, oui ou non ?»«
Je te tuerai, »
lâcha Semiraj, toujours très calme.
« Avant toutes les autres, je veux qu'elle t'entende crier. »«
Je vois. » Sa reine, va dire aux autres qui sont dehors de nous rejoindre. Au bout du couloir, j'ai vu des serviteurs faire le ménage dans une chambre. Invite-les à se joindre à nous.
Sa reine acquiesça et sortit en trombe. Une fois assise, Katsuane tissa quelques flux d'air et força Semiraj à se relever. Passant la tête par la porte, Elsa et Eriane balayèrent la pièce du regard. Puis elles entrèrent, suivies par sa reine. Quelques instants plus tard, Degyan arriva avec 5 serviteurs. 3 jolies de manies en tablier blanc, un valet et un grand type efflanqué aux doigts tachés de marron à force de passer du vernis sur les meubles. Un public parfait. Dès que tout le monde fut là, Katsuane utilisa ses flux d'air pour forcer Semiraj à se plier en deux sur ses genoux. Puis elle lui flanqua une fessée. Au début, la rejetée resta digne. Très vite, elle jura comme un charretier. Enfin, elle se répandit en menaces. Katsuane continua alors que ses mains commençaient à lui faire mal. Bientôt, les imprécations de sa victime devinrent des cris d'outrage et de douleur. La servante à la taille de guêpe revint avec un plateau, ajoutant à l'humiliation de ses mirages.
« Maintenant, »
dit Katsuane entre deux cris de la rejetée.
« Tu veux bien manger ?»« Je trouverai tous les gens que tu aimes, et je les forcerai à se dévorer les uns les autres devant tes yeux. Je... »
Katsuane recommença à frapper. Dans la petite pièce, les spectateurs suivaient la scène en silence. Soudain, ce mirage se mit à pleurer. Pas de douleur, mais de honte. C'était la clé. Ces mirages ne redoutaient pas la souffrance. Elle se contrefichait de la persuasion. Mais détruire son image, comment imaginer une pire punition? Dans la même situation, la remarque aurait valu pour Katsuane. Après quelques minutes, elle cessa de frapper et dissipa les tissages qui immobilisaient ses mirages.
« Alors, tu manges ?»« Je... »
Katsuane leva une main. Ses mirages se jeta à plat ventre et entreprit de laper les carottes et les haricots.
« C'est une simple femme, »
dit Katsuane à son public.
« Quelqu'un comme vous et moi. Elle détient des secrets, mais n'importe quel jeune garçon peut en avoir aussi et refuser de les révéler. N'oubliez jamais ça. »
Katsuane se leva et se dirigea vers la porte. Au passage, elle s'arrêta près de sa reine, qui regardait le spectacle avec des yeux ronds.
« Je ne saurais trop te conseiller d'avoir une brosse à cheveux sur toi. Tu auras moins mal aux mains. » « Compris, Katsuane Sedai. »
« Et maintenant, » pensa la légende en sortant.
« Il est temps de m'occuper d'Altor. »«
Seigneur, » dit Grady, en passant une main sur son front parcheminé. « J'ai peur que tu ne comprennes pas. »« Dans ce cas, explique-moi !»
s'agaça Perrine. Au sommet d'une colline, il observait la masse compacte des réfugiés et des soldats qui montaient le camp. Un ensemble délirant de tentes de toutes les formes et de toutes les couleurs. L'exact reflet des âmes dont le jeune homme avait la responsabilité. Les Shaido, comme il avait espéré, ne s'étaient pas lancés dans une infernale poursuite. Après le départ de Perrine et de ses troupes, ils avaient investi la ville, selon les éclaireurs. Une bonne nouvelle, ça. Quoi qu'il arrive, Perrine aurait un répit pour reposer ses gens, continuer à s'éloigner et, si possible, recourir à des portails pour évacuer la plus grande partie des réfugiés. Un sacré morceau à avaler, cela dit. Des milliers et des milliers de personnes, un cauchemar à gérer et à organiser. Ces derniers jours, le jeune seigneur avait eu droit à un incessant défilé de plaignants, de mécontents, d'indignés et de râleurs. Sans oublier les multiples documents à faire établir puis à signer. Où Balwer dénichait-il tant de feuilles? Bizarrement, la paperasserie rassurait les gens, tout content de repartir avec un jugement dûment écrit et officialisé. Selon Balwer, Perrine avait urgemment besoin d'un sceau. Toute cette activité avait distrait Perrine, qui ne s'en plaignait pas. Mais il ne pourrait pas garder la tête dans le sable beaucoup plus longtemps. Qu'il fasse l'autruche ou non, Rand le poussait à marcher vers le nord. Car il devait être présent lors de l'ultime bataille. Rien d'autre ne comptait. Certes, mais sa tendance à se concentrer sur un seul objectif, en ignorant tout le reste, lui avait valu bien des ennuis lors de sa quête de Fail. Désormais, il allait devoir trouver un équilibre. Par exemple, en décidant s'il voulait ou non commander ses soldats dans la vallée. Et en faisant la paix avec le loup qui vivait en lui, un fauve qui se déchaînait lorsqu'il déboulait sur un champ de bataille. Avant tout ça, il devait ramener les réfugiés chez eux. Et ce n'était pas un jeu d'enfant.
« Tu as eu le temps de te reposer, Grady. La fatigue est loin d'être la seule difficulté, Seigneur. Même si, pour être franc, je me sens capable de dormir une semaine d'affilée. »
Grady semblait vraiment épuisé. Avec son visage de fermier et le caractère qui allait avec, ce type était pourtant un roc. À l'inverse de bien des nobles que connaissait Perrine, il ne reculait devant rien pour faire son devoir. Mais comme tout un chacun, il avait ses limites. Qu'éprouvait un homme contraint de canaliser autant? Des poches sous les yeux, Grady était blafard, alors qu'il avait à l'origine le teint hâlé. Et malgré son âge pas du tout canonique, ses cheveux grisonnaient.
« Je l'ai poussé trop loin. Même chose pour Néald. »
Un autre effet d'un caractère obsessionnel, comme Perrine commençait à s'en apercevoir. Il fallait ajouter ce qu'il avait fait à Aram, et la façon dont il avait laissé ses hommes sans chef.
« Je dois rectifier tout ça. Trouver un moyen de jongler avec tout en même temps. »
S'il n'y parvenait pas, il risquait de ne pas survivre jusqu'à l'ultime bataille.
« Le problème, il est dans la vallée, Seigneur. »
Grady balaya le camp du regard. Chaque faction, les lanciers de Mayenne, les hommes d'Aliandre, les gars de Deux-Rivières,
les Aiel et les réfugiés d'une kyrielle de ville campaient dans son coin.
Il y a au moins 100 000 personnes à ramener chez elles. Cela dit, certaines refuseront, parce qu'elles se sentent plus en sécurité avec toi.
Ces gens doivent se ressaisir. Leur place est auprès de leur famille.
Et ceux dont le foyer est dans un pays dominé par les Sianchaniens. Avant l'invasion, tous auraient été ravis de retourner chez eux, mais à présent... Eh bien, ils préfèrent rester là où il y a de quoi manger et quelqu'un pour les protéger.
On peut au moins faire voyager ceux qui veulent partir. Sans eux, nous avancerons plus vite.
Grady secoua la tête.
C'est le problème, Seigneur. Balwer, ton secrétaire, a fait le compte. Je ne peux pas ouvrir un portail assez grand pour que plus de 2 hommes le franchissent de front. S'il faut une seconde par passage, eh bien, le transfert prendra des heures et des heures.
Balwer ne m'a pas précisé le chiffre, mais il parle de plusieurs jours, en précisant que ses estimations sont sans doute trop optimistes.
Dans mon cas, je peux maintenir un portail ouvert pendant 1 heure, et encore.
Perrine serra les dents. Il demanderait les chiffres à Balwer, mais quelque chose lui disait qu'ils étaient justes.
On continue à avancer vers le nord dans ce cas. Chaque jour, Néald et toi vous ouvrirez des portails pour envoyer chez eux une partie des gens. Mais ne vous videz pas de vos forces.
Les yeux enfoncés dans leurs orbites, Grady acquiesça. Au fond, il faudrait peut-être mieux attendre quelques jours avant de lancer le processus. Dès que Perrine lui fait signe qu'il pouvait se retirer, Grady se retourna vers le camp. Son seigneur resta où il était, observant les préparatifs du dîner. Les chariots des cuisiniers étaient rangés au milieu du camp, avec des provisions qui seraient épuisées avant que la colonne ait atteint Andorre. Ou fallait-il plutôt se diriger vers le Cairien? C'était là que Perrine avait vu Rand pour la dernière fois. Cela dit, selon ses dernières visions, son vieil ami semblait n'être dans aucun de ces deux pays, et la reine d'Andorre risquait de ne pas l'accueillir à bras ouverts après toutes les rumeurs à son sujet et sur l'étendard à l'aigle rouge. Dans le camp, chaque faction envoyait des émissaires chercher la ration du soir. Pour la nourriture, chaque groupe était autonome, Perrine supervisant seulement la répartition des équipements. Dans le lointain, il distingua Bavin Rockshaw, son intendant en chef kyrienien, debout derrière un chariot et occupé à négocier avec les fameux représentants. Satisfait de son inspection, le jeune seigneur redescendit dans le camp. Traversant le secteur des Cairiniens, il gagna celui des gardes de rivière, où se trouvait sa tente. Désormais, il s'était fait à ses sens surdéveloppés, tous liés à l'apparition de ses yeux jaunes. Parmi ses anciens compagnons, plus personne ne semblait les remarquer. Mais ça changeait du tout au tout avec les nouvelles connaissances. En le voyant, beaucoup de réfugiés du Cairien, par exemple, cessaient de monter les tentes pour le regarder passer en murmurant « yeux jaunes ». Perrine ne se formalisait pas du sobriquet. Le nom de sa famille, c'était Aibara, et il se rengorgeait de le porter, d'autant qu'il était un des rares survivants en mesure de le transmettre. Les Trollocs avaient fait en sorte qu'il en soit ainsi. Quand il jeta un coup d'œil appuyé à un groupe de réfugiés, ceux-ci se remirent promptement au travail. Un peu plus loin, il croisa 2 gars de chez lui, Todd Algar et Jory Kongar, qui le saluèrent en se tapant du poing sur le cœur. Pour eux, Perrine Yeux Jaunes n'était pas un objet d'appréhension, mais un type digne de respect. Cela dit, il faisait encore des gorges chaudes de la nuit qu'il avait passée sous la tente de Berelaine. Depuis, Perrine tentait en vain d'échapper aux ombres de ce non-événement. Après la victoire sur les Shaido, ses hommes s'étaient laissés emporter par l'enthousiasme. Mais dans un passé récent, il avait eu le sentiment de ne plus être le bienvenu parmi eux. Et ça recommencerait. Pour l'heure, cependant, ces deux-là semblaient avoir laissé de côté leur mécontentement. Mieux encore. Ils saluèrent leur chef. Le saluer, lui? Avait-il oublié que Perrine était l'un des leurs? Qu'il avait grandi avec eux? Le temps où Jory se moquait de sa lenteur d'élocution était-il si loin que ça? Et l'époque où ce même Jory passait à la forge pour se vanter d'avoir volé un baiser à une nouvelle fille? Perrine se contenta d'un salut de la tête. À quoi bon remuer le passé, alors que la fidélité de tous ces gars à Perrine Jaune l'avait grandement aidé à sauver Fail? Quand il les eut dépassés, les oreilles hyperpuissantes de Perrine lui permirent d'entendre ce que disaient les 2 gars. Des anecdotes au sujet de la bataille, avec la liste de leurs exploits. L'un des 2 empestait encore le sang. Normal, car il n'avait pas encore nettoyé ses bottes. Sans doute parce qu'il n'avait pas remarqué qu'elles étaient tachées de sang. Parfois, Perrine se demandait si ses sens étaient vraiment supérieurs à ceux des autres. En fait, il prenait le temps de bien examiner des choses que les gens ignoraient. Mais comment pouvait-il ne pas sentir cette odeur de sang, justement? L'air des montagnes, du côté nord, embaumait comme celui de la maison. Pourtant, ils étaient à des lieues de 2 rivières. Si les autres hommes avaient pris le temps de fermer les yeux et de se concentrer, n'aurait-il pas pu sentir la même chose que lui?
Et s'il levait les paupières et regardait pour de bon le monde, n'aurait-il pas des yeux aussi perçants que les siens? Non, il délirait. Ses sens étaient bien meilleurs, parce que s'être rapproché des loups l'avait changé à jamais. Ces derniers temps, il n'avait pas beaucoup pensé à ses frères de chasse. Trop occupé par Fail pour ça. Mais il apprenait peu à peu à être moins susceptible au sujet de ses yeux. Il faisait partie de lui, alors pourquoi perdre son temps à se plaindre? Pourtant, cette fureur qu'il éprouvait au combat, une totale perte de contrôle qui l'inquiétait de plus en plus. La première fois qu'il avait ressenti ça, c'était une certaine nuit, très ancienne, où il avait affronté des capes blanches. Un moment, il avait été incapable de dire s'il était un homme ou un loup. Et voilà qu'une nuit, pendant une visite dans le rêve des loups, il avait essayé de tuer Sauteur. Dans ce songe-là, toute mort était définitive. Mais à cette occasion, Perrine avait failli se perdre dans le rêve. Hanté par ses vieilles peurs, réveillé après qu'il les eut pendant si longtemps repoussées, les angoisses d'un homme, mais qui se comportait comme un loup en cage. En approchant de sa tente, le jeune seigneur prit enfin plusieurs décisions. Acharné à retrouver Fail, il avait négligé le monde du rêve et fuit toutes ses responsabilités. En clamant que rien d'autre n'importait, mais la vérité était beaucoup plus complexe. Bien sûr, s'il s'était focalisé sur Fail, c'était par amour. Mais en plus, ça l'avait bien arrangé. Ainsi, pas besoin de réfléchir à son malaise à l'idée de commander, ni de s'interroger sur la trêve fragile qu'avait signée en lui l'être humain et le loup. Aujourd'hui, il avait sauvé Fail, mais tant de choses clochaient encore. Sans nul doute, les réponses se trouvaient dans ses rêves. Il était temps d'y retourner.